Europe 1.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Non, il n'est pas acceptable que le proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort pour avoir demandé conformément à la loi à une élève de retirer son voile et de quitter son poste à Paris. Non, il n'est pas question de se contenter de l'argument trop facile de l'éducation nationale évoquant un choix personnel du proviseur qui a dû démissionner quelques mois seulement avant son départ en retraite. Il faut être sérieux deux secondes. Qui peut croire qu'il s'agit d'un choix personnel lorsque votre nom est jeté en pâture sur Internet et que les menaces de mort pleuvent sur vous et votre entourage en provenance de toute la France, mais aussi du monde entier. Personne n'est dupe, il s'agit bien d'une capitulation en rase campagne de nos institutions face à un islam politique qui dresse les élèves contre les profs et contre les chefs d'établissement, tout cela 5 mois et demi après la mort de Dominique Bernard à Arras. Accepter cela, c'est accepter que la République n'est plus capable de se défendre, de défendre ses valeurs, qu'elle est faible et qu'elle vacille au moindre coup de vent. Le signal est dévastateur pour l'ensemble du personnel enseignant qui se bat vaillamment chaque jour contre les avancées des islamistes qui ont fait de l'école le lieu où l'on combat l'obscurantisme par le savoir, un ennemi à abattre. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 18h, avant de venir à nos débats, d'abord le rappel des titres de l'actualité. Alors que le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, la Commission des finances du Sénat annonce le lancement d'une mission parlementaire sur ce sujet. Dans le même temps, l'agence de notation Moody's juge improbable que la France tienne son objectif de réduction du déficit à 2,7% d'ici 2027. À Grenoble, un homme de 20 ans est activement recherché par la police. Il est suspecté d'être l'auteur de plusieurs viols et agressions sexuelles. L'individu a été aperçu entièrement vêtu de noir et circulant sur une trottinette. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre le 22 janvier et le 16 mars sur des jeunes femmes âgées de 20 à 27 ans. Près d'un enfant sur 6 a été harcelé en ligne en 2022 en Europe. C'est une donnée en hausse depuis 4 ans. Par ailleurs, 11% des jeunes de 11 à 15 ans ont été harcelés physiquement à l'école. Ce sont des chiffres terrifiants de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, 173e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 3 de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Ohad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02 en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir à vous. Vincent Hervouet nous a rejoint, éditorialiste de politique étrangère. Bonsoir, cher Vincent. Bienvenue, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir, Geoffroy Lejeune du journal du Dimanche. On va commencer, si vous le voulez bien, par ces menaces de mort contre le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Le résultat, c'est qu'il a démissionné de ses fonctions. L'éducation nationale n'a pas su le protéger. On va voir qu'il a été reçu à Matignon cet après-midi. Thomas Bonnet se trouve sur place avec Bambagay. Bonsoir, quel est le but? Pourquoi Gabriel Attal a-t-il reçu ce proviseur? Quel est le message qu'il veut faire passer au fond?
Eh bien, il y a deux messages. D'abord, celui du soutien total et entier du Premier ministre envers ce proviseur menacé de mort qui a ensuite quitté ses fonctions et puis montré aussi que le Premier ministre continue de s'emparer de ces sujets. D'ailleurs, il l'avait dit lors de sa nomination à Matignon, il emporte avec lui les thèmes de l'éducation nationale, montrer qu'il est pleinement impliqué sur l'ensemble de ces dossiers et ce depuis longtemps. C'est lui, nous rappelle son entourage, qui avait proposer l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Lui aussi, qui s'était déplacé quand il y avait eu des affaires similaires dans le passé. Au mois de décembre, par exemple, une professeure de français qui, elle aussi, avait été menacée suite à un cours qu'elle avait enseigné dans son établissement. Montrer donc que le gouvernement est à pied d'œuvre et qu'il n'abandonne pas les professeurs. Voilà en clair le message qu'a voulu faire passer Gabriel Attal. Rien n'a filtré du côté de Matignon sur la teneur des échanges qu'il a pu avoir avec ce proviseur pendant les quelques 30 minutes qu'a duré cet entretien, au cours duquel Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, était également présente.
Merci beaucoup Thomas Bonnet et Bambagay. Moi je veux bien ces grands discours, Vincent. Je veux bien, la République ne fléchira pas, oui, ils ne passeront pas. Mais la réalité c'est qu'ils passent, c'est que voilà, c'est le proviseur qui est parti. Et l'élève est toujours dans l'établissement, voilà. Oui, et que c'est la République qui est bafouée à mes yeux, pas les vôtres.
Bah, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un décalage entre le fait de le recevoir à Matignon, vous voyez, la venue du ministre de l'Éducation nationale dans cette cité scolaire du nord de Paris, donc l'État qui se donne à voir, qui se manifeste dans toute sa majesté, puis bon, et la réalité, à savoir que il a donné sa démission et il a jeté l'éponge, mais elle garde le voile. Parce que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé, c'est la petite interview confession que la jeune fille, oui, elle est majeure, mais bon, c'est une jeune fille, sur le média du comité contre l'islamophobie en Europe. Vous savez, le comité contre l'islamophobie en France a été dissous après le meurtre quasi rituel de Samuel Paty. Et ils sont reconstitués avec exactement le même discours. Maintenant, c'est en Europe, ils sont à Bruxelles, et ils continuent de jouer les incendiaires, les pyromanes. Et là, elle explique à quel point elle a été choquée, elle est traumatisée, etc. Et on se dit, mais attends, bon sang, mais elle aurait dû être virée. Et puis, vous êtes choqués aussi par le décalage, donc l'espèce de comédie qui continue, et vous êtes choqués aussi par le décalage entre le communiqué du proviseur, ce qu'il a dit. Il a expliqué qu'il avait... Il avait quitté son boulot pour des raisons de sécurité. Et puis le communiqué du rectorat qui parle de convenance personnelle.
Mm-hmm. Ben c'est ça.
On lui a concédé le droit anticipé de partir à la retraite, le droit de partir à la retraite de manière anticipée.
Pour se débarrasser du problème, Vincent.
Ben évidemment.
Débarrasser du problème.
Mais, vous savez, il y a dans la façon dont c'est présenté par le rectorat, il y a à la fois une sorte de déni.
Hein? Bien sûr.
Et en même temps, de discrédit porté sur le proviseur. C'est parfaitement hypocrite et totalement écœurant.
Vous avez raison, c'est ce que je dénonçais dans mon édito, en disant qui peut croire que c'est pour raison personnelle, alors qu'on est menacé de mort partout sur Internet et qu'on est toute sa famille. Bah,
c'est la faiblesse de l'État qui crève les yeux,
menace.
Évidemment, oui.
Je vais vous passer la parole, mais j'aimerais qu'on écoute un autre témoignage d'une professeure qui a accepté de témoigner face caméra et face à nos micros, parce que voilà, tous les professeurs sont à la fois horrifiés de ce qui s'est passé, mais terrorisés à l'idée de s'exprimer, parce que s'ils s'expriment, s'ils soutiennent le proviseur, bah, c'est la même. Le même déversement de haine qui va leur tomber dessus. Écoutez cette professeure de musique interrogée à la sortie du lycée Maurice Ravel.
Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Voilà. Et donc, c'est très bien. Voilà. Donc je suis désolée, effectivement, qu'aujourd'hui, il est obligé d'arrêter ses fonctions. Ce n'est pas normal. Il y a une pression d'enfer, il est sur les réseaux sociaux, mis à mort sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible.
C'est courageux ce qu'elle fait, je crois, le jeune, cette prof de musique, parce que la plupart, ils ne veulent pas nous parler, mais parce qu'ils ont peur. Bah, eux aussi ont peur, c'est la victoire de la peur.
Comment vous pouvez leur en vouloir, les pauvres? Demain, les caméras ne seront plus là, mais leurs élèves seront encore là, et probablement des élèves qui les menacent, donc qui peuvent les menacer. Donc elle est courageuse, en effet, c'est ce que je me disais en voyant l'image, le visage découvert. C'est terrible. Moi, je me mets dans la tête, là, aujourd'hui, de tous les musulmans un peu véhéments, pas les terroristes, pas les islamistes vraiment radicalisés, etc., juste ceux qui ont envie d'aller tester la limite. C'est une grande victoire pour eux, en réalité. C'est une grande victoire. Il y a l'une d'entre eux qui s'est dévouée pour aller tester la limite. Peut-être qu'elle sera sanctionnée. Peut-être que les quelques-uns qui ont menacé de mort seront sanctionnés. Je l'espère, d'ailleurs.
Ah oui, ceux qui ont menacé de mort, oui.
Mais globalement, ce que disait Vincent est malheureusement parfaitement vrai. C'est-à-dire que vous voyez la mise en scène de la compassion républicaine avec la réception à Matignon de quelqu'un qui va partir à la retraite et qui va disparaître, en réalité. Et eux vont recommencer dans quelques jours, quelques semaines. Et à chaque fois, ils feront un peu plus peur. Et bien sûr, ils feront un peu plus peur et ils feront taire de plus en plus de gens. Et puis, écoutez, un jour, il y aura une bonne âme qui se dévouera politiquement pour dire que finalement, on peut accepter le voile à l'école.
Alors,
ça ira bien.
Nicole Belloué, qui est la ministre de l'Éducation nationale, a précisé tout à l'heure, le proviseur n'a pas démissionné. Alors voilà, c'est l'Éducation nationale qui parle. Il est en retrait, il doit prendre sa retraite en juin ou en juillet. Il est en position d'activité où il est rémunéré. Autorisation spéciale d'absence jusqu'à sa retraite.
C'est
merveilleux.
Il est rémunéré, mais ne vous inquiétez pas, sa retraite sera en plus de 10%. S'il n'a pas pris 3 ans de plus que les 40.
Non, mais c'est une façon de se débarrasser du problème qui est terrifiant.
Non, mais c'est pire que ça.
Il aura droit lui aussi à cette petite, ce petit coup de pied de l'âne. Non, mais c'est invraisemblable. Oui, pardon.
Jean-Sébastien Ferjou qui va absolument.
Je peux pas exclure que réellement il est souhaité, lui, c'est ce que je disais. Maintenant, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Il y a un loup derrière tout ça. C'est-à-dire que lui était proche de la retraite. Donc la question, finalement, elle était facile à régler. Il n'y avait que 3 mois. L'administration peut le payer pendant 3 mois sans que ça ait un impact majeur sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Mais les enseignants ou les chefs d'établissement qui veulent démissionner, justement, quand vous êtes agent de la fonction publique, vous ne pouvez pas démissionner. C'est le cas aussi dans la la police, des policiers qui veulent, qui disent qu'ils veulent arrêter parce que précisément ils n'en peuvent plus, ils doivent avoir des entretiens. Parfois, ça prend un an et demi, et ils n'ont toujours pas de réponse parce que le professeur qui se sent menacé, qui ne se sent pas soutenu par son administration, qu'est-ce qu'il peut faire? Si en plus on lui interdit de
quitter... Ça, c'est encore autre chose, effectivement.
Ben non, parce que c'est un problème majeur. Parce que
oui, mais c'est un autre problème, Jean-Sébastien. C'est pas exactement le problème de l'islamisme et de l'entrisme.
Les deux sont liés, parce qu'on cumule quand même, on cumule quand même les deux aspects. D'une part, on ne soutient pas, on ne défend pas des membres de l'éducation nationale. Et en plus, on les piège. Parce qu'au moins, on pourra avoir l'honnêteté de les laisser partir si on n'est pas capable de les défendre.
On a d'un côté des profs 100 000 menacés. Hein, donc 1 sur 8, c'est Jean-Pierre Aubin qui le disait, c'est pas moi. Donc un chiffre quand même assez éloquent, avec une augmentation de la peur, de l'autocensure de la part de ces profs. Et qui, avec certains qui ont le courage de parler face caméra, en sachant quand même le risque de représailles qu'ils ont cours. De l'autre côté, des élèves. Moi, ce qui me sidère, c'est les différentes versions. C'est-à-dire que les élèves sont plutôt du côté de la version, comme ils disent, de la personne voilée. C'est-à-dire qu'elle a évidemment été tapée, etc. Donc là, ça m'amène à une réflexion qui est la suivante, c'est que je pense que la bataille culturelle de la laïcité, malheureusement, est perdue aujourd'hui auprès de la jeunesse. Voilà. Parce que, en fait, ils n'ont pas compris que c'était une loi, pas de prohibition, d'interdiction, qui allait à l'encontre de leur religion, mais que c'était plutôt une loi, justement, qui permettait la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire.
Et ils visent ça comme une loi liberticide.
Et de l'autre côté, au milieu de ça, pardon, je finis, vous avez l'État qui est là, tel quelque chose qui est complètement amorphe, avec Gabriel Attal qui nous disait quand même, le 11 mars dernier, nous dirons dans les écoles ce qui s'est passé, nous dirons la vérité, telle qu'elle est, sans crainte, sans censure, sans atténuation, nous nommerons l'innommable. Alors pardon, mais en fait là, on réassiste exactement au scénario Samuel Paty, c'est-à-dire d'un côté un recteur, d'abord un proviseur, enfin une école qui n'est pas capable de démentir publiquement ce qui se passe. Ensuite un rectorat qui n'a pas forcément réagi tout de suite. Et puis l'État qui a du retard à l'allumage, parce que heureusement Gabriel Attal reçoit ce proviseur, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même distorsion entre son discours et celui officiel de l'éducation nationale.
Vincent Herouet, un dernier mot.
Oui, parce que en fait, que les élèves ne comprennent pas, c'est tellement évident quand vous regardez la pub à la télé, quand vous regardez par exemple les pubs de la Commission européenne. Ils viennent de lancer encore une de ces publicités gnangnang à la gloire de tout ce qu'ils font. Et là, c'est la Direction internationale pour la coopération. Et vous avez comme systématiquement, pratiquement, dans ce genre de campagne publicitaire de la Commission européenne, des filles voilées. Et là, c'est une campagne pour l'enseignement, pour la coopération et l'éducation sans frontières, pourrait-on dire. Ce sont donc des petites filles. C'est des gamines panubiles. C'est pas des jeunes femmes, c'est pas des étudiantes. C'est des enfants qui portent le voile d'une manière totalement stricte, comme on le faisait autrefois uniquement dans les pays wahhabites. Donc, quelque chose qui est dingue, qui est promu donc par la Commission européenne. Donc vous avez cette espèce de discours officiel qui se déploie dans les terres impuissants, et puis vous avez la réalité du terrain, et donc c'est incompréhensible.
Alors,
on écoutera dans un instant Patrice Romain, ancien directeur d'école, qui témoigne. Il dit, une fois de plus, ce proviseur d'école, de lycée, a été victime du pas de vague, parce que c'est toujours la même chose. Rien n'a changé en réalité. Une petite pause, on se retrouve sur CNews et sur Europe.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à évoquer rapidement ce proviseur menacé de mort qui a dû quitter ses fonctions à Paris après qu'il ait demandé à une élève de retirer son voile. On va juste écouter Patrice Romain, ancien directeur d'école, qui est très critique sur l'incompétence de la hiérarchie à l'éducation nationale, notamment sur les questions de laïcité. Écoutez-le.
Comme d'habitude, c'est un chef d'établissement épuisé qui pèle les pots cassés du pas de vague cher à l'éducation nationale, tout simplement. Et il y en aura d'autres, hein. C'est le premier d'une longue série, je vous le prédis. Durant toute ma carrière, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que j'ai fait remonter à ma hiérarchie un problème d'atteinte à la laïcité, à chaque fois, la hiérarchie m'a donné tort. À chaque fois.
Incroyable ce que dit Patrice Romain, Geoffroy Lejeune. À chaque fois, ils lui ont donné tort. C'est-à-dire que la machine est faite pour broyer ce genre de remontée de la réalité.
Moi, la question que me pose cette affaire, c'est la réalité de la prise du discours politique sur ce qui se passe en réalité dans les établissements. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, en fait, une fois que les caméras seront détournées, ces gens seront confrontés exactement au même problème, avec la même violence, qui a plutôt vocation à s'intensifier qu'à se calmer. Et donc tout le monde
monde a accueilli avec bienveillance le discours de Gabriel Attal quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale en juillet dernier, et en septembre quand il a interdit l'abaya. En réalité, on réalise que on se rend compte que finalement le phénomène ne s'arrête pas du tout, ne baisse pas en intensité.
Loin s'en faut.
Ce qu'on appelait les atteintes à la laïcité ont continué à exister, à augmenter, et maintenant les certains professeurs ou proviseurs sont menacés de mort. Donc je me demande si n'est même pas passé.
Toujours quel cas. Il y en a même qui ont été assassinés.
Il y a aussi ce que décrivait.
Je pense à Samuel Paty et Dominique Bernard. Rapidement, Jean-Sébastien, on va réécouter les élèves après.
Un certain nombre d'enseignants après les tragédies de Samuel Paty et Dominique Bernard, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas en interne dire leurs propres opinions. Parce que la sociologie de l'éducation nationale, à un certain niveau, elle est proche idéologiquement de certaines familles politiques comme les Insoumis. Mmh. Et donc avec une vision de la laïcité, une vision de la République qui est totalement différente. Donc il y a un vrai isolement d'un certain nombre des enseignants et une vraie lâcheté politique au sommet. Et de ce point de vue-là, le choix de Madame Belloubet est parfaitement incompréhensible. Alors que Gabriel Attal avait adopté une ligne politique très claire. Emmanuel Macron, parce qu'il voulait sembler...
C'est-à-dire qu'on est passé de M. Blanquer à M. Papendiaï, à M. Attal et à...
Non mais voilà, Madame Belloubet. Qui avait quand même quasiment rétabli le blasphème en considérant que la jeune Mila s'était mise
en avez raison de le rappeler.
Et donc cette incompréhension, enfin, ou cette incohérence politique-là, elle est exactement ce qui mène à ça.
Alors, juste on écoute les élèves pour clore ce chapitre sur le proviseur qui a dû quitter ses fonctions. Écoutez les réactions mitigées des élèves de cet établissement.
Nous, on trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon proviseur.
Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. Après, s'il a démissionné, c'est qu'il se sentait peut-être en danger ou pas, je sais pas.
Je m'attendais pas à que ça prenne une aussi grande ampleur, mais en vrai, tant que notre directeur il est en sécurité et qu'il il peut rien se passer pour lui, c'est mieux comme ça, quoi.
Pour moi, la situation était en train de s'arranger, mais visiblement non. Des menaces de mort, il aurait jamais dû en recevoir, donc pour moi c'est inadmissible.
C'est assez frappant, Vincent Hervouet. Et ceux qui disent, il lui est rien arrivé, donc tout va bien, il est en sécurité.
On demandait à des adolescents ou à des préadolescents d'avoir de la compassion pour un adulte au seuil de la retraite et pour un proviseur.
Et qui incarne l'autorité.
Ils ne le voient pas comme une victime. Alors que la lycéenne qui va se plaindre au comité contre l'islamophobie, elle se présente vraiment comme une victime. Elle est hyper choquée. Elle a été vraiment violentée. Et elle
sa plainte a été rejetée.
Elle n'a pas l'idée de raser, de baisser les yeux, de raser les murs, de considérer que ça allait trop loin, de réprouver les appels à la mort qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. Non, elle persiste. C'est elle la victime. Donc c'est vraiment une machine. Et bon, vous pouvez pas demander à des gens de 14 ans, 15 ans, 16 ans d'avoir
une sympathie
vers celle qui s'habille comme elle veut. Parce que comment ça on pourrait pas s'habiller comme on veut? Mais c'est une liberté élémentaire. Vous avez quand même une forme de communautarisme, de pensée, de réflexe désormais qui est bien installé dans l'opinion.
On va avancer parce que les lycées sont en permanence sous les menaces, que ce soit là ce type de menaces ou les menaces terroristes, parce que chaque jour, il y a des mails malveillants qui sont envoyés à des dizaines d'établissements. Ça a touché l'Île-de-France, le Grand Est, le Nord et désormais le Sud-Est. Aucune région n'est plus épargnée. Tous les lycées sont menacés d'attentats terroristes. On fait le point avec Noémie Schultz et je vous passe la parole.
Les établissements ont été visés via la plateforme Paris Classe Numérique. Il s'agit de ces espaces numériques de travail qui permettent aux parents, aux enseignants, aux élèves de communiquer entre eux. Le rectorat de Paris indique qu'un message de vigilance a été transmis à tous les chefs d'établissement. Les comptes ont été bloqués, les incidents bien entendu signalés. Pour chaque établissement ciblé, la menace est prise au sérieux et des levées de doutes ont été organisées, parfois avec des brigades cynophiles. Selon nos confrères du Parisien, certains établissements scolaires sont restés fermés ce matin. C'est le cas du collège Georges Duhamel dans le 15e arrondissement, ainsi que les écoles maternelles et élémentaires situées à proximité. La semaine dernière, une trentaine d'établissements, en majorité de la région parisienne mais aussi de Bretagne, avaient reçu ces menaces. Hier, ce sont des dizaines de lycées du sud de la France qui ont été visés. Certains ont même dû être évacués. Lundi, les chiffres donnés par l'Éducation nationale étaient de 130 collèges et lycées touchés. Un chiffre qui vient donc s'alourdir aujourd'hui.
Merci Noémie. On apprend à l'instant que sur ces menaces de mort, deux nouvelles enquêtes viennent d'être ouvertes à Paris. C'est-à-dire que Tatiana Honor-Berzac, voilà, ça n'arrête pas en réalité. L'école est attaquée tous les jours dans notre pays par tous les biais possibles. Soit des menaces de mort, soit des menaces d'attentats, de décapitation. C'est tout le temps le même mail. Hein. On va vous décapiter, bande de couffards, on viendra vous égorger, vous êtes des mécréants.
Ce sont des coups de boutoir permanents. Alors il y a d'un côté une réponse politique, si j'ose dire, qui est le discours de fermeté de Gabriel Attal, qui a répété encore il y a quelques jours que le cyberharcèlement et les menaces de mort ou les alertes à la bombe via les écoles, c'était 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais ça, si vous voulez, bon, bah, c'est très bien de m'en dire ça, mais ça ne fait pas avancer à la problématique. Et la problématique, c'est la suivante, c'est qu'en fait, en réalité, d'abord, il faut il faut la preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'il faut y ait des sanctions fermes pour qu'on montre qu'on ne peut pas impunément justement mettre le bazar à ce point-là et menacer des écoles, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il faut aussi montrer que les écoles sont sécurisées, parce que je rappelle quand même ce discours sur les 350 établissements, il y aurait des trous dans la raquette en termes de sécurité, avec cette question des intrusions dans les écoles, donc les alertes anti-intrusion qui ne fonctionnent pas toujours, qui n'existent pas, la question des portiques de sécurité ou pas, bref. Il va falloir quand même aussi trouver un système où on puisse pérenniser, ou plutôt où on puisse sanctuariser l'école sans que ça devienne un bunker. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, de façon plus générale, je pense à tous ces discours sur l'entrisme et sur ces coups de boutoir, justement, la façon dont l'islam, en fait, radical, s'immisce petit à petit via les frères musulmans dans la société française. Et on le voit, il suffit de regarder ce qui se passe dans les clubs de sport, les associations, l'université, les écoles, évidemment, dans la mode, dans l'économie du halal. Plein de chercheurs l'ont théorisé, expliquent qu'il y a deux choses terribles pour les islamistes radicaux. C'est d'une part l'école, et c'est ce que expliquait Gabriel Attal, parce que justement, c'est là où on s'émancipe, c'est là où on se libère, et c'est là où on lutte contre l'obscurantisme. Voilà. Et puis, c'est aussi la mixité. C'est-à-dire que c'est leur talon d'Achille, évidemment, c'est la mixité, et c'est d'imposer une mixité partout, tout le temps. Et donc, c'est un vrai travail à avoir.
Vincent, un dernier mot là-dessus avant
Ça est totalement vrai, mais il y a une espèce de stratégie de l'attention qui profite toujours, évidemment, aux extrémistes. Et on est frappé de cette espèce de façon d'électriser, quand même, avec cette menace qui tétanise tout le monde. Effectivement, 5 jours après le carnage de Moscou, qui nous a rappelé quand même qu'il y avait une menace bien réelle, bien présente, et beaucoup moins loin que les canons chinois ou russes. Et donc, je pense qu'il profite de tout, il tout fait ventre. Quand vous avez un agenda, quand vous avez un but comme ça déterminé, qui est celui des frères musulmans, des islamistes en général, tout profite. La stratégie d'attention, ça vous profite, évidemment.
Qu'il soit, effectivement. Oui, Jean-Sébastien.
Il y a tout ce qui est souterrain. C'est-à-dire qu'il y a ces menaces, effectivement, qui s'inscrivent dans une stratégie de l'attention, mais il y a tout ce qui se passe dans le quotidien, c'est-à-dire la pression sociale. Parce que pourquoi il est important que l'école soit préservée des signes religieux? C'est pas tant parce que c'est dérangeant de voir quelqu'un qui exprimerait qu'il a des convictions religieuses. C'est parce que c'est la pression sociale qui va avec. Bien souvent, et nous sommes en période de ramadan, il y a la pression qui s'exerce sur ceux qui ne font pas le ramadan. Alors, elle s'exerce dans un certain nombre d'endroits ailleurs dans la société française, mais l'école, elle doit en être préservée. Qu'il n'y ait pas des enfants à qui on dise tu es un bon ou une mauvaise musulmane parce que tu ne portes pas le voile, ou parce que tu parles à des garçons alors qu'en tant que musulmane tu ne devrais pas parler à des garçons, ou parce que tu ne fais pas le ramadan, parce que c'est ça qui se passe dans les écoles françaises. Et il y a même une pression qui s'exerce sur les autres élèves. Je crois vous avoir déjà mentionné le cas de cette jeune fille qui avait dénoncé, elle n'a même pas dénoncé, elle a protesté contre un camarade qui diffusait des vidéos de décapitation de Daesh. Que lui est-il arrivé? Harcèlement scolaire, aucun soutien de l'établissement, aucun soutien du rectorat.
C'est elle qui a quitté l'établissement, j'imagine.
Non seulement elle a quitté l'établissement, ses parents ont dû quitter la ville.
Bon, terrible. J'aimerais qu'on avance. On va évoquer maintenant un témoignage bouleversant qu'on a entendu ce matin chez l'ami Pascal Pro. Une rescapée des massacres du 7 octobre. Une jeune femme qui s'appelle Laura Blajman Kadar. Elle était le 7 octobre en Israël, au festival de techno dans le désert. Elle raconte ce qu'elle a vécu alors qu'elle était cachée dans une caravane. Elle entendait le massacre à l'extérieur se dérouler. Écoutez ce qu'elle a raconté, parce que c'était vraiment extrêmement poignant.
Vers 12h30, c'est la fois qu'un des terroristes regarde par la fenêtre et mon mari parle arabe et il entend dire « il y a des vivants, venez ». Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Et mon mari et moi se regardent les yeux dans les yeux et on ne peut pas parler, on ne peut pas se toucher parce qu'on n'était pas assis l'un à côté de l'autre. Donc il chuchote qu'il m'aime, je lui dis que je l'aime et là c'est un regard qui... C'est un regard qui veut tout dire et qui ne veut rien dire, parce qu'on veut tout dire et on n'a rien à dire à un moment pareil. Donc je ferme mon téléphone, je dis adieu à Chai et je prie de mourir vite. Parce qu'à midi et demi, on avait déjà vu les médias, on savait déjà qu'il y avait des otages. Et entre moi et moi-même, la décision est claire, je préfère mourir ici et ne pas être prise à Gaza. Et quand les garçons ont réussi à ouvrir la porte de la caravane, on a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre. Et ils sont tous bien habillés, les filles en jupe, maquillées, un peu déguisées. Ils étaient là pour un festival de musique, tout le monde s'est habillé avec beaucoup de couleurs. Et ils sont tous étalés morts par terre. Et on voit très vite la différence entre quelqu'un qui a été tué et quelqu'un qui a été blessé et achevé après. Et c'est 200 mètres que j'ai dû courir et courir au-dessus des gens, faire attention de ne pas les toucher. C'est 200 mètres que je n'oublierai jamais.
Voilà pour le témoignage de Laura qui écrit un livre « Croire en la vie ». Il faut faire écouter ces témoignages, Vincent Herbach. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Ces massacres-là ne passent pas.
Non seulement les Israéliens ne l'oublient pas, mais ils sont toujours le 7 octobre. Non, hein. Vous savez, c'est le, ça va faire 6 mois la semaine prochaine, pile. Et ils se sont... Quelque chose s'est arrêté, cette femme. Son témoignage est très touchant, mais on sent bien qu'effectivement, il y a avant, après, comme dans toujours quand il y a un traumatisme, même plus que ça, c'est une survivante. Mm-hmm. Et évidemment, ce qu'elle a vécu est très dur, mais quand vous réalisez qu'il y a des gens qui, depuis maintenant 6 mois, sont enfermés en sous-sol, enterrés vivants, hein, ils sont encore une centaine quand même.
Torturés, violés par les femmes.
À peu près en vie. Certaines, oui, il y a un témoignage aujourd'hui dans la,
dans le New York Times,
dans la presse israélienne, notamment d'une femme qui a raconté, qui a été libérée en novembre, qui pour la première fois raconte ce qu'elle a eu à subir de ses geôliers. Oui, c'est une épouvante pour tous les Israéliens, parce que c'est la fin de l'insouciance. C'est la fin. Et cette rêve partie incarnait bien, justement, cette insouciance. Hein.
Et on évoquait ce qui s'est passé à Moscou, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est la même chose.
Oui,
c'est l'islamisme qui veut frapper au cœur de...
Oui, mais en Israël, c'est d'autant plus fort. Hein. Et donc, c'est un... on a du mal à réaliser ici en Occident à quel point ce drame, c'est la fin de cette époque d'Israël. Oui, vraiment.
Vous avez raison. Tatiana Rodin-Barzac.
Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Laurence, oui, sauf que Bataclan, Moscou, c'est du terrorisme, évidemment. Et pour certains, c'est pas encore acté le fait que le 7 octobre, ça soit justement un massacre terroriste.
Vous avez raison.
Et deuxième chose, une pensée. Elle dit ce mot très juste que tous les Israéliens ont en tête, c'est « je ne voulais surtout pas être prise et aller à Gaza ». C'est la hantise de tous les Juifs israéliens. Et je pense donc à ces 138 otages et surtout ces 19 femmes qui subissent l'innommable, mais vraiment l'innommable, depuis des mois. Et je pense très très tendrement à leurs familles qui doivent subir un calvaire chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe.
Et surtout, peut-être un mot de Geoffroy Lejeune et Jean-Sébastien Ferjou sur ce qu'on a entendu, parce qu'il faut, rappeler. Parce que le négationnisme est à l'œuvre... Et tout de suite a été à l'œuvre, en fait.
Indéniablement, et quand les faits ne sont pas mis en cause, c'est le caractère des faits qui est nié, en effet. Donc, bien sûr, moi, je trouve que c'est une description assez juste de ce que doit être l'enfer, en réalité, sur Terre, en tout cas, de ce qu'elle a vécu. Et ce qui m'intrigue, ce qui m'interroge, c'est que son livre s'appelle « Croire en la vie ». Et alors, il y a la vie, mais il y a croire aussi. Et c'est une période, c'est pas qu'en ce moment, vous savez, c'est le moment aussi où on peut peut-être se dire qu'il y a quelque chose qui transcende tout ça et qui doit pas empêcher d'être lucide ici-bas, hein, et de se dire qu'en effet, on est frappé par le même ennemi en Israël, à Moscou, à Paris, quand c'était le Bataclan. Et en même temps, on est à peine 6 mois après, elle réussit à en tirer un témoignage d'espoir et ça force quand même le respect.
Jean-Sébastien Ferjou.
Je crois que ce que disait Tatiana Rodin-Barzac est très important. Effectivement, personne ne dit que ce qui s'est passé à Moscou ne relève pas du terrorisme. Personne ne commence à expliquer que finalement, les relations de la Russie avec le Tadjikistan, le Kirghizistan ou l'Asie centrale de manière générale, elles remontent à bien avant le 20, je ne sais plus combien de mars nous étions vendredi dernier, alors que c'est ce qu'on dit. Et c'est ce que disent notamment un certain nombre d'acteurs politiques français en disant mais ça n'a pas, le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre, donc en réalité ce sont des actes de guerre. Et souvenez-vous de toutes les polémiques, de tous les espèces d'attermoiements de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre des gens
de la France insoumise
pour ne pas employer le mot de terrorisme. Il ne me semble pas qu'ils aient beaucoup hésité dans le cas de l'attentat de Moscou. Et c'est absolument essentiel parce qu'en plus en Israël, et pour rebondir sur ce que disait Vincent Lavouette, si on le ramenait à la proportion, à la population française, ce sont plus de 10 000 morts. Donc forcément, c'est un traumatisme énorme. Et le 7 octobre, les Israéliens ont eu très peur que ce qui se passait au bord de la frontière de Gaza se passe aussi dans le nord avec le Hezbollah et qu'il en soit en réalité fini de l'État d'Israël. Cette peur existentielle-là, on l'aperçoit très mal depuis l'étranger parce qu'on a l'impression que les Israéliens sont forts et que les Palestiniens sont faibles. Les Israéliens, ils vivent dans un environnement géopolitique où ils n'ont pas que les Palestiniens. Comme
on va en parler dans un instant avec Gilles Kepel, qui sera notre invité. Mais d'abord, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin, 18h33 sur CNews et Europe 1.
Une enquête a été ouverte après la disparition inquiétante d'un couple de Français sur l'île de Madère au Portugal. Ce couple de sexagénaires n'a plus donné signe de vie depuis 11 jours maintenant. Originaires du Tarn-et-Garonne, les deux disparus sont partis le 16 mars pour une randonnée à São Vicente où ils étaient en vacances. Ce chiffre hallucinant, selon les dernières données diffusées par l'ONU, 1 milliard de repas ont été jetés chaque jour dans le monde en 2022. Et cette estimation pourrait être bien plus élevée, toujours selon ce rapport des Nations Unies. Vers une légalisation du mariage homosexuel en Thaïlande, le feu vert a été donné par les députés et le texte doit encore passer devant le Sénat. Le Royaume pourrait devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître le mariage homosexuel, Laurence.
Merci beaucoup Simon Guélin. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline avec notre invité Gilles Kepel. On va revenir sur l'islamisme en France, évidemment, ce qui s'est passé pour ce proviseur de lycée à Paris et puis aussi sur ce qui se passe en Israël depuis le 7 octobre. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h38, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gilles Kepel nous a rejoint. Bonsoir Gilles Kepel. Vous publiez Holocauste, ce livre chez Plon, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. On va y venir évidemment parce que c'est le cœur de cet ouvrage. J'aimerais juste savoir ce que vous pensez de ce qui se passe dans notre pays. Les attaques de l'islamisme en France à la lumière de ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel puisque le proviseur de cet établissement a été menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile, ce qui est conforme à la loi, et que l'éducation nationale trouve que voilà, c'est pour des convenances personnelles qu'il a dû quitter ses fonctions alors que c'est une défaite évidemment de la République. J'aimerais juste qu'on écoute Didier Lemaire qui est un ancien professeur de philosophie qui a vécu à peu près la même chose, qui a dû quitter aussi l'enseignement après avoir été menacé de mort par les islamistes. Écoutez.
L'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de l'émancipation, c'est celle qui permet de devenir citoyen et c'est donc la première cible, je pense, pour les islamistes aujourd'hui, c'est de fracturer cette école. En fracturant l'école, on fracture la nation, on monte une communauté, des individus qu'on assigne à une identité contre la communauté nationale. C'est la victoire de la rébellion sur l'autorité, sur la règle et de façon générale sur la loi. Les chefs d'établissement sont en première ligne pour faire appliquer les textes et donc ils sont les premiers visés.
Gilles Kepel, pourquoi l'école est-elle à ce point-là ciblée par les islamistes ?
Parce que c'est le lieu, comme l'a dit Didier Lemaire à l'instant, où on apprend l'esprit critique, la liberté et justement la hantise d'un certain nombre de militants islamistes. C'est que justement l'école casse la logique séparatiste et communautaire. Et fonde les enfants dans le creuset national républicain qui n'empêche pas de garder sa foi, ses coutumes, tout ce qu'on veut. Mais l'emprise des religieux radicaux sur les enfants est diminuée d'autant à partir du moment où ils élaborent une pensée critique qui peut leur permettre de remettre en cause ces allégeances.
Ça veut dire qu'on n'est qu'au début de ces attaques contre l'école de la République ? Que ça va se multiplier, s'intensifier,
au début, malheureusement, non, puisque, comme on l'a vu de manière tragique, l'assassinat de notre collègue Samuel Paty et ensuite notre collègue Dominique Bernard par deux personnes qui étaient originaires, justement, de l'Asie centrale, l'un un Tchétchène et l'autre un Ingouch, c'est-à-dire ces zones aujourd'hui où l'État islamique, version wilaya du Khorasan, dont il est originaire. Et cet État islamique version Khorasan, hein, c'est pas du tout comme le Daesh que nous avons malheureusement connu. Ce ne sont pas en grande partie des jeunes Français qui sont partis et revenus à travers les expéditions qu'on a vues. C'est une branche particulière, hein, que sont des Ouzbeks, des Tchétchènes, des Tadjiks, des Ingouches qui sont allés au djihad en Syrie, qui ensuite sont repartis. Mais nous avons des communautés, alors il ne s'agit pas de jeter bien sûr l'opprobre sur elles dans leur ensemble, dont certains membres sont venus en France, qui ont été accueillis comme réfugiés politiques après la deuxième guerre de Tchétchénie contre Poutine. Et deux d'entre eux, justement, ont commis dans ce que j'ai appelé moi le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire sans être dans une organisation, mais en étant influencés par des réseaux sociaux, par des affinités, ont commis ces deux crimes monstrueux à l'intérieur de l'école et des crimes contre des professeurs qui ont été assassinés.
Donc cette mouvance islamiste nous menace, y compris sur le sol français.
Et d'autant plus avec cette incidence aujourd'hui de Lehi Khorasan qui, début du mois de janvier, a causé un attentat en Iran, ensuite à Moscou, et bien évidemment, dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui offre un spectacle majeur au monde. Tous les regards sont tournés vers Paris, et ça signifie évidemment que les services de sécurité sont en alerte maximum.
Vincent Arouet, on a entendu hier le procureur du parquet national antiterrorisme, M. Ricard, dire qu'il était absolument inquiet de la sortie des radicalisés de prison. Il y en a un certain nombre, quelques centaines, qui sont en train d'être libérés petit à petit, et ils représentent un danger réel.
Tous les responsables de la sécurité qui ne sont pas en fonction et tenus au devoir de réserve disent à peu près la même chose. C'est que ces JO se présentent assez mal, hein, sur le plan de la sécurité, justement. Quand elles sont sorties de prison, moi, ce que je vois, c'est que le Daesh, hein, l'État islamique au Khorasan, s'est beaucoup développé grâce, justement, à l'effondrement de l'État au moment où les Américains sont partis et que les prisons se sont ouvertes en Afghanistan. Et ils ont pu ainsi recruter, et avec quelques attentats bien sanglants, se refaire une sorte de popularité dans les rangs. J'aurais voulu poser une question à Gilles Kepel, qui connaît bien justement ces mouvements. Vous n'avez pas été surpris dans l'attentat de vendredi? Rien ne vous a étonné? Le fait que le Daesh fasse appel à des...
On parle de Moscou, Vincent.
À des mercenaires. Pardon?
Vous parlez de Moscou, de l'attentat de Moscou.
Qu'est-ce que j'ai dit, Paris?
Non. Je voulais préciser pour les auditeurs.
L'attentat de Moscou ne vous a pas étonné dans son déroulement?
Des mercenaires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été payés?
Oui.
Ça, c'est ce que nous disent les services russes. Pour l'instant, ce sont les aveux, comme vous l'avez remarqué, quand on a vu...
Arrachés par la torture.
Quand on a vu les suspects, ils avaient passé un mauvais quart d'heure. Donc, je serais prudent, si vous voulez, pour tirer des conclusions pour l'instant.
Ce questionnement, je vais le formuler différemment. Est-ce que ça ne vous a pas étonné? Normalement, on est plutôt habitué à, justement, des auteurs terroristes qui viennent et qui se font soit exploser, soit tuer pour ne pas être capturés vivants. Et le fait qu'ils se fassent capturer, somme toute, assez facilement, alors qu'on avait l'impression qu'ils étaient extrêmement entraînés et très armés, etc. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu étonnant dans le déroulé par rapport à ce qu'on voit habituellement?
Oui, c'est étonnant, à condition que ce soit effectivement eux qui aient commis des attentats. On n'en est pas du tout sûr. On ne peut pas considérer dans l'heure actuelle que la parole des services de renseignement russes est l'expression de la vérité urbi et orbi. Je crois qu'il faut avoir une saine prudence en attendant cela.
Dans votre livre Holocauste, vous revenez sur ce que vous appelez la razzia qui a dévasté le 7 octobre 2023 à l'État juif, où 1140 personnes ont été massacrées, violées, mutilées. Vous évoquez aussi la riposte armée de Tsahal sur Gaza qui provoque des milliers de morts. J'aimerais juste vous faire écouter le témoignage d'une ex-otage du Hamas, extrêmement rare, une femme qui s'appelle Amit, qui s'est livrée au New York Times dans un très long entretien publié hier. Elle révèle pour la première fois les pratiques du Hamas sur les femmes qui sont otages et notamment les violences sexuelles qu'elles subissent. Récit de Camille Guédon.
Un témoignage horrifiant. Amit Soussana, ex-otage du Hamas, raconte avoir été enlevée à son domicile, battue et traînée à Gaza par au moins 10 hommes, dont certains armés. Plusieurs jours après son enlèvement, enfermée dans une chambre d'enfant et enchaînée à la cheville gauche, un ravisseur a commencé à lui poser des questions sur sa vie sexuelle. Aux alentours du 24 octobre, son geôlier lui a enlevé cette chaîne et l'a laissée dans une salle de bain.
Il m'a assise au bord du bain et j'ai fermé mes jambes. J'ai résisté. Il n'arrêtait pas de me frapper et de me mettre son arme sur le visage. Puis il m'a traînée jusqu'à la chambre. Il m'a forcée avec l'arme pointée sur moi à commettre un acte sexuel.
Suite à ces révélations d'agression sexuelle, Israël a réagi au plus haut niveau. Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée, appelle le monde à agir.
Il s'agit d'un témoignage horrible. C'est un signal d'alarme. Un appel au monde à agir. à faire tout ce qui est en son pouvoir et à faire pression sur le Hamas pour qu'il libère nos otages.
Le Hamas nie ces accusations, mais un rapport de l'ONU, publié début mars, faisait état de violences sexuelles commises par des membres du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, qui a fait plus de 1160 morts en Israël.
Ce que vous décrivez dans votre livre, ce qu'on vient d'écouter, c'est un holocauste pour vous, Gilles Kepel?
Alors, j'ai utilisé ce
dans
terme...
Dans le sens originel du terme.
Oui, j'ai utilisé ce terme holocauste au pluriel, il y a un S dans le titre, pour montrer en quoi l'accusation d'holocauste aujourd'hui est utilisée par un certain nombre d'acteurs sur place, mais aussi internationaux, de manière à changer complètement notre vision du monde.
Holocauste, c'est sacrifice de masse.
Voilà, sacrifice de masse. Et ce que va dire, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est que l'Holocauste, qui est la manière dont on appelait l'extermination des Juifs par le nazisme en France, jusqu'à ce que le terme hébraïque de Shoah s'impose en France à la suite du film de Claude Lanzmann et du succès qu'il a eu. Au fond, les Sud-Africains nous disent, quand ils vont à la Cour internationale de justice, c'est une vieille histoire, ça date d'il y a longtemps, c'est une histoire entre Européens et entre Blancs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de fonder le système moral de l'univers, non plus sur le plus jamais ça de 1945, où il y avait un accord entre les Soviétiques et les Occidentaux, c'est une des rares choses qui a subsister malgré la guerre froide, mais bien plutôt sur ce qu'ils appellent les crimes de la colonisation et de l'apartheid, et de transformer le monde de cette manière-là. Et dans cette vision-là, donc l'Holocauste, le génocide, le peuple génocidé, c'est-à-dire le peuple juif à qui la terre d'Israël a été donnée par l'ONU dans des circonstances qu'on peut par ailleurs discuter, devait servir de refuge, est devenu, dans leur vision, le peuple génocidaire, puisque, dans leur interprétation, donc l'hécatombe qui a touché Gaza, comme vous l'avez rappelé, on ne sait pas exactement combien il y a de morts, parce que ce sont les chiffres du Hamas, mais enfin, ils sont très nombreux, 25, 30 000 morts, c'est beaucoup, est aujourd'hui devenu ce qui s'oppose, d'une certaine manière, à la légitimité même de l'État d'Israël.
Mais vous réfutez le mot de génocide, vous parlez d'une hécatombe.
Oui, alors j'utilise le mot hécatombe parce que c'est le terme, si j'ose dire, technique le plus exact, et je voudrais montrer que, précisément, l'utilisation, à partir du moment où on utilise le terme génocide, on prend parti dans un camp ou dans un autre. Et moi, mon travail comme universitaire, ça n'est pas de me faire le porte-parole d'un camp ou d'un autre, mais d'essayer de comprendre et d'analyser au plus juste ce qui s'est passé. Vous voyez, j'étais... vous aviez d'ailleurs eu la gentillesse de m'inviter. J'avais publié un livre le trimestre précédent qui s'appelait « Prophète en son pays » et j'ai été très sollicité pour décrypter, puisque j'étais qui j'étais avec l'expérience que j'avais, ce phénomène du 7 octobre. Donc j'ai accumulé énormément d'informations et il m'a semblé qu'avec mes 40 ans d'expérience, je pouvais mettre ce phénomène en perspective. Je me suis enfermé chez moi dans le midi et j'ai écrit ce livre pour essayer de donner des matériaux pour que nous arrivions à comprendre quels sont les enjeux. Alors, par exemple, le témoignage que vous venez de présenter, on avait bien sûr un certain nombre de gens qui avaient parlé de ça, on avait eu des dénégations, et je pense qu'au fur et à mesure, c'est pourquoi c'est difficile d'écrire à chaud, mais j'ai essayé de le faire en prenant toutes les précautions possibles, au fur et à mesure, un certain nombre de témoignages de même ordre vont émerger de nouveau. Et on aura aussi des témoignages sur ce qui s'est passé à Gaza, où, comme vous le savez, la presse ne peut pas pénétrer. Donc ça, c'est extrêmement important parce que, bien sûr, ce qui s'est joué en Israël le 7 octobre et à Gaza ensuite est horrible pour des raisons différentes, mais ce sont des gens qui sont morts dans l'affaire d'Israël. Il y a eu des mutilations, il y a eu des viols visiblement, dans l'autre, dans les bombardements de Gaza, des gens n'ont pas été violés explicitement, mais que vous soyez tué par une bombe ou rendu infirme à vie, ce n'est pas rien non plus. Et ce qui est important, je crois, c'est d'arriver à comprendre comment tous ces phénomènes, outre l'importance pour le Moyen-Orient, pour les identifications auxquelles peuvent se livrer un certain nombre de concitoyens et de compatriotes, comment ça a transformé le monde. Moi, j'explique notamment pourquoi il me semble que le 7 octobre est un événement qui, finalement, a plus de signification que le 11 septembre. Personne aux États-Unis ou en France, à l'époque, c'était vraiment minoritaire et inaudible, n'a expliqué que le 11 septembre était un acte de résistance. vous avez eu la philosophe américaine, la papesse du wokisme, Judith Butler, mm-hmm. qui a déclaré chez les indigènes de la République à Paris l'autre jour, October 7th was an act of resistance. Ça avait l'air d'ailleurs.
C'était un acte de résistance.
Oui, c'est pas difficile à traduire. Mm-hmm. Et évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Et de même, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Après le 11 septembre, l'université Harvard n'a pas été fracturée. Sciences Po n'a pas été occupée, etc. Vous voyez, donc je crois que ce sont des conséquences, y compris sur nos propres sociétés, qui sont très importantes. On voit aujourd'hui que, par exemple, l'ONU a voté une résolution de cesser le feu. Monsieur Netanyahou s'assied dessus, puisqu'il estime que aller au cesser le feu aujourd'hui, s'il n'a pas cautérisé la plaie du 7 octobre, bah, c'est risquer son avenir politique en Israël. Puis il pense qu'il peut aller relativement loin, puisqu'il y aura des pressions minimales de la présidence américaine. Monsieur Biden est candidat à ses réélections. S'il pousse trop dans le cessez-le-feu, il va être abandonné par l'électorat juif qui ira chez Trump. S'il ne le fait pas, il risque de perdre la jeunesse et un certain nombre de minorités. Donc vous voyez, on est dans cette situation d'Israël et Palestine, dans quelque chose qui nous concerne directement. Vous m'avez posé une question sur les Jeux Olympiques tout à l'heure et sur ce qui se passait ici dans les lycées. C'est en fait un phénomène qui est à la fois très local, mais en même temps qui est global et qui nous concerne tous.
Une toute petite question de Tatiana et de Vincent.
Ouais, très rapidement, parce qu'en fait, vous disiez, il y a eu des viols visiblement, il y a eu des viols évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont menées qui montrent que non seulement le 7 octobre, le jour du massacre, les corps de femmes, d'enfants et d'hommes ont été mutilés.
Mais également, ensuite, dans les tunnels, voilà. Oui, d'après, on a eu un certain
aussi,
nombre de témoignages.
On voit aussi que selon les témoignages, voilà, et des femmes vont revenir en devant être avortées parce qu'elles auront été mises enceintes par à la suite de ces nombreux viols. Donc, ma question, la suivante.
La question étant de savoir combien vont revenir. Parce que la
vivante,
question, c'est que voilà.
Les 19 femmes en protège, évidemment, voilà. Vont revenir.
On ne sait pas exactement.
Ma question, la suivante, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux personnes qui sont encore dans une sorte de relativisme par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'il se passe encore aujourd'hui dans ces tunnels, et sans faire une concurrence victimaire, c'est-à-dire qu'il y a 32 000 morts, comme vous disiez, selon le ministère du Hamas, oui. Chiffre invérifiable, pas de journée sur place, mais un désastre aussi humanitaire, oui. etc., bien évidemment. Mais cela dit, comment est-ce qu'on fait pour réaffirmer au monde le fait que ce 7 octobre, l'État d'Israël a failli dans sa mission première, qui était celle de la sécurité de son peuple, mais surtout que c'est quelque part un génocide. Parce que les gens du Hamas sont venus pour tuer, pour salir, pour mutiler des personnes juives qui étaient juives, et juste pour cette raison.
Eh bien, moi, ce que je fais dans mon travail d'universitaire, si vous voulez, je ne suis ni porte-parole, ni journaliste, ni autre, c'est d'essayer de restituer les faits dans leur totalité au moment où j'ai écrit, si vous voulez, tout ce qu'il y avait à disposition. Et de montrer pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Si vous lisez le livre, vous verrez que j'essaye de comprendre quelles sont les logiques qui ont présidé à ce qui s'est passé. Comment est-ce que le Hamas a pu justifier ses exactions, y compris en se référant à un certain nombre de textes religieux, ou également pourquoi est-ce que M. Netanyahou a cru que c'était une bonne idée de faire stipendier le Hamas par le Qatar, pensant qu'ainsi il pouvait dire tout ce qu'il voulait, mais il ne mordrait pas, si j'ose dire. J'ai longuement visionné en arabe les vidéos de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, etc. Moi, c'est mon travail, c'est de faire ça, vous voyez ?
Universitaire, effectivement.
Oui, si j'essaie, même si je n'ai plus pour longtemps.
Vincent, rapidement, il nous reste...
Non, ce que dit le professeur Kepel est très subtil, mais moi, dans le mot d'Holocauste, il y a une dimension religieuse. Une dimension, oui. Dans l'écriture, bien on sûr. Offre un sacrifice en Holocauste. Hein. Et dans l'Holocauste juif... Hein, que tous les antisémites ont voulu ramener à un simple génocide en niant à la fois le caractère industriel, de profanation même, le caractère quasi satanique. Le fait de le mettre au pluriel, je le crains, fera un grand plaisir à tous ceux qui veulent à tout prix renvoyer dos à dos ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était effectivement d'ordre génocidaire, et puis le massacre qui a lieu en ce moment de civils à Gaza, qui est un fait de guerre.
J'entends votre remarque, notamment dans un certain nombre de milieux juifs, la remarque m'a été faite. Quand ils ont lu le livre, ils ont abandonné cette remarque. J'espère que vous lirez le livre aussi, Vincent. Parce que justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ça n'est pas tellement à propos de ce qui s'est passé sur le terrain, c'est la manière dont aujourd'hui l'histoire est complètement, l'histoire du monde, les clivages du sud global contre le nord est recodé à partir de ces notions de l'Holocauste qui sont opposées à celles de la Shoah, si vous voulez. Et ça, c'est le véritable enjeu planétaire. C'est la relativisation. C'est là-dessus que je m'interroge. Ce pourquoi je mets ce S.
Voilà. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Votre livre chez Plon. Merci, Vincent Herouet, Tatiana Rodin-Bazac et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, vous retrouvez Hélène Zélani sur Europe 1 pour Europe 1 Soir et Christine Guély sur CNews pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.